Et c'est le journal d'Adrien Bossard. Bonjour Adrien.
Bonjour Amélie. Il y a 50 ans, jour pour jour, les premiers pas de l'homme sur la Lune, un anniversaire, ça se fête. Et même à travers le monde entier, on tentera de décrocher la Lune avec une expo au Grand Palais de Paris.
Et justement, à 8h20, deux invités exceptionnels. Ils posent le pied dans le studio de France Inter 50 ans après Apollo 11. Le couple Jean-Pierre et Claudie Aigneret, les deux astronautes français, nous raconteront leurs souvenirs et leur vision de la conquête spatiale aujourd'hui. Notre second invité à 7h50, alors que Boris Johnson s'apprête à s'emparer du pouvoir au Royaume-Uni, nous tenterons de comprendre ce personnage polémique et les enjeux du vote des Tories aujourd'hui avec le correspondant à Londres, Marc Roche. Dans le reste de l'actualité, Adrien.
Préparez-vous à en suer. Dès demain, le mercure va s'affoler de nouveau. Un épisode de canicule malvenu pour la récolte de maïs. Et puis, où sont passées les deux cloches du village varois de Ginaservi? Des cloches volées dans la nuit. Le maire ne comprend pas comment c'est arrivé.
France Inter. Les États-Unis célèbrent en ce moment même les premiers pas de l'homme sur la Lune.
Et Houston répond présent. C'est dans la ville texane que les festivités se déroulent principalement. 50 ans donc, jour pour jour, après le succès de la mission Apollo 11, un événement planétaire fêté également en France, avec notamment cette expo consacrée à la Lune hier soir au Grand Palais de Paris, des projections ou encore des conférences de stars de l'espace. Bref, une nuit lunaire entre science et art. Julien Baldacchino.
Un tonnerre d'applaudissements pour Claudie Aigneret et Thomas Pesquet.
C'était les vedettes de la soirée, les deux spationautes français venus partager sur scène leur expérience spatiale devant plus d'un millier de personnes captivées. Parmi elles, Kevin, un passionné d'astronomie. Pour lui, ce discours a de quoi inspirer le public.
Moi, je trouve qu'il a une faculté pour rendre tout intéressant. Et accessoirement, il est extrêmement inspirant dans sa manière de parler. Et ça donne vraiment envie à tout le monde de devenir astronaute.
Mais l'autre star, c'est la Lune elle-même, une immense Lune de 16 mètres de diamètre suspendue au plafond du Grand Palais qui attire tous les regards, dont celui de Maya, venue en famille.
En soi, on n'y connaît rien de ce monde-là, de ce monde extérieur, et pourtant, on y va quand même. Ça prouve qu'au final, on est tous capables de franchir le pas et d'arriver au bout de ce qu'on veut.
Moment artistique de la soirée, en suspension au-dessus du public, l'artiste Chloé Moglia a proposé sa version vertigineuse du voyage de la Terre à la Lune.
Dès qu'on prend le temps vraiment de pas se cacher derrière le mot Lune qui nous rend la situation de regarder cet astre normal, dès qu'on plonge vraiment hors des mots et qu'on rêve devant, c'est absolument vertigineux.
Le voyage s'est achevé en musique avec un concert électro du musicien Arnaud Rebotini.
Et pour voir cette lune géante de 16 mètres de diamètre suspendue au plafond du Grand Palais, allez donc faire un tour sur franceinter.fr. La lune, qui on le sait, a des conséquences sur notre planète. Elle est responsable des marées, modifie aussi les mouvements de masse d'air et sans doute va-t-on beaucoup lui en vouloir à partir de demain, car l'air chaud venu d'Afrique va s'installer durablement et avec lui, les fortes chaleurs. Des pics à 40 degrés sont attendus jusqu'à jeudi. Les agriculteurs n'ont vraiment pas besoin de ça, déjà que les sols souffrent beaucoup du manque de pluie. En Moselle, la moisson de maïs est déjà en cours depuis deux bonnes semaines, Victor Vasseur.
En ce moment, Fabrice Couturier travaille 15 à 16 heures par jour. Cet agriculteur de Lupy tire un premier bilan de sa récolte.
Les colzas sont plutôt médiocres, c'est assez hétérogène en termes de rendement. Les orges d'hiver ont plutôt bien rendu. Et les blés, les tout premiers échos, puisque c'est vraiment le démarrage de la moisson, seraient plutôt corrects.
Ce qui inquiète le président de la FDSEA, le syndicat agricole, c'est le maïs, il a soif, les plantes ont même cessé de pousser.
On sait qu'on a perdu une partie de la quantité en termes de tonnage à l'hectare. On aura des épis, quand ils seront là, qui seront bien plus petits que ce qui devrait, et donc la qualité va être affectée.
Fabrice Couturier s'attend à perdre 30 à 40% de son rendement habituel. C'est pourquoi des agriculteurs réclament une dérogation pour récolter les jachères, les terres sans pâture.
Ah mais c'est 1200 hectares en Moselle. Mais quand vous avez des troupeaux et que vous savez pertinemment que vous allez être obligé de décapitaliser, c'est-à-dire de vendre une partie de vos bêtes parce que vous n'aurez pas de quoi les nourrir suffisamment pour passer l'hiver, et ben c'est important.
Les agriculteurs lorrains réclament cette dérogation depuis le début du mois. Ils n'ont pour le moment aucune réponse.
Victor Vasseur de France Bleu Lorraine Nord. La canicule également à l'étranger. L'est des États-Unis est fortement touché avec 38 degrés recensés à New York et Washington. Des fortes chaleurs responsables de la mort de 3 personnes. Au total, 150 millions d'habitants sont confrontés à cet épisode caniculaire en Amérique du Nord. La chaleur cumulée aux vents forts font de gros dégâts aussi au Portugal. Le centre du pays en proie à de violents incendies. La nuit dernière, un village entier est évacué. Plus d'un millier de pompiers sont toujours mobilisés ce matin.
Et puis à 7h05 dans votre journal, Adrien Bossard, Londres menace l'Iran de sanctions.
Après la saisie d'un pétrolier britannique hier dans le détroit d'Ormuz, le ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, doit annoncer des mesures diplomatiques. Aujourd'hui, il demande à tous ses navires de rester hors de cette zone pour une période provisoire. En Ukraine, jour de vote, aujourd'hui, les électeurs appelés aux urnes pour choisir leurs députés. Le parti du nouveau chef d'État, Volodymyr Zelensky, est annoncé gagnant, ce qui lui permettrait peut-être de disposer d'une majorité à l'Assemblée 3 mois après son arrivée au pouvoir.
Lui, le pouvoir, il le connaît bien.
Benjamin Netanyahou détient désormais le record de longévité d'un premier ministre israélien, record battu hier, 13 années de règne entre 96 et 99 et depuis 2009. Un règne marqué par des succès diplomatiques grâce au soutien indéfectible de l'administration de Trump, mais le roi Bibi est aussi contesté. Ces derniers mois sont ternis notamment par plusieurs affaires à l'approche de nouvelles élections, Marine Blahovic.
La longévité de Benjamin Netanyahou est souvent considérée comme une énigme. Si ses admirateurs louent son bilan économique et ses percées diplomatiques, le roi Bibi n'est pas exempt de critiques. Taxé de populiste par ses détracteurs, il est accusé de diviser la population israélienne, d'avoir marginalisé la question du conflit israélo-palestinien ou encore de stigmatiser la population arabe de l'État hébreu. À sa droite, on lui reproche sa politique laxiste à l'égard des factions de la bande de Gaza. Mais Benjamin Netanyahou est surtout cerné par les affaires. Soupçonné de corruption, fraude et abus de confiance, il doit être entendu par la justice à l'automne. Et c'est sous la menace d'une inculpation qu'il prépare sa nouvelle campagne électorale. Devant l'impossibilité de former un gouvernement après les dernières élections législatives, il a décidé de provoquer un nouveau scrutin qui se tiendra donc en septembre prochain. À 69 ans, Benjamin Netanyahou, l'inamovible, prend ainsi le risque de perdre son trône. Jérusalem, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
Qui en veut aux cloches du village de Gina Servi dans le Var, Adrien ?
Celle qui réveille les habitants tous les matins, les deux cloches des deux chapelles ne sont plus là, volées dans la nuit de jeudi à vendredi, laissant un trou béant dans les toits, une chose est sûre. Ce n'est pas l'affaire d'amateurs, tout semble avoir été très bien préparé. On parle de cloches en bronze hein, tout de même, l'une pèse plus de 150 kilos. Le maire Hervé Philibert a du mal à réaliser.
La chapelle Saint-Damas, c'est une chapelle qui se situe au-dessus du village, donc sur une petite montagne au-dessus du village, donc qui est facilement accessible par un sentier. Et je pense qu'avec une échelle, on peut monter et récupérer et décrocher. C'est vrai qu'on la voit du village, mais c'est un petit peu isolé. Donc ça paraît assez facile. Par contre, la seconde, qui est la chapelle des pénitents, dans le cimetière, qui est dans le village, le portail n'a même pas été fracturé, donc le cadenas est toujours présent. Donc ils ont dû rentrer par le petit portillon. Ils ont dû grimper, je ne sais pas comment. Ils n'ont pas cassé une seule tuile pour monter un plus sur la... où il y a juste une tuile qui est fendue. Donc c'est vraiment des professionnels qui ont agi. Et après, ils ont dû repartir derrière en portant cette cloche. Je ne sais pas. On ne comprend pas comment ils ont pu réaliser ce vol. Je n'ai pas le poids en tête là, mais j'imagine que c'est une cloche qui doit faire dans les 150 kilos. Quoi. Notamment la cloche des pénitents. C'est quand même des cloches qui sont... On ne peut pas le faire tout seul. Ce n'est pas possible.
Et le maire de Gina Servi porte plainte et guette le moindre site d'achat et de vente en ligne car le prix élevé du bronze pourrait inciter le ou les voleurs à mettre une petite annonce.
On passe au Tour de France, on pourrait même le rebaptiser le Tour des Français cette année. Hein.
Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe, duo infernal, incroyable doublé tricolore. Hier, le premier s'adjuge l'étape en haut du Tourmalet, le second consolide son maillot jaune en terminant deuxième. Que ça continue messieurs, 15e étape aujourd'hui entre Limoux et Foix, longue de 185 km. En escrime, le plus fort, c'est Le Fort, Enzo Le Fort, le français et champion du monde de fleuret. Une première depuis 29 ans pour un tricolore. C'est aussi et surtout son premier titre mondial en individuel, Thomas Coignac.
Et un premier titre mondial individuel, ça fait bizarre à la descente du podium.
Quand j'ai entendu retentir la Marseillaise pour moi seul, ça m'a filé la chair de poule, hein, je vais pas mentir. Le championnat du monde, c'est l'un des graals de l'escrimeur. J'ai atteint de mes objectifs de carrière.
Et Enzo Le Fort a encore le temps d'aller chercher d'autres titres, à commencer par celui des Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain, à 27 ans. Il est encore jeune et du coup, lors du dernier titre mondial du fleuret masculin, celui de Philippe Omnes en 1990.
J'étais pas né, donc ça me passe un peu au-dessus de la tête et même on nous le disait pas souvent. Donc non, c'était plus de la bienveillance. Les gens voulaient que je réussisse et qu'on réussisse.
Une réussite qui n'était pas évidente. Il y a 15 jours, Le Fort s'est blessé aux adducteurs. Hier matin, en qualification, il a manqué de repères avant de dérouler l'après-midi et de s'imposer 15 15-10 en quart de finale, 15-7 en demi et 15-6 en finale contre l'anglais Mepstead.
L'anglais Marcus Mepstead, il a fait la compète de sa vie, il a sorti de très grosses têtes de série. Donc moi je suis arrivé mais méfiant, une finale, ça se joue pas, ça se gagne, il fallait juste prendre ce match au sérieux, chose que j'ai réussi à faire.
Et Enzo Lefort va fêter ce titre avec modération. Demain, il reprend son fleuret pour l'épreuve par équipe pour tenter de gagner une deuxième médaille avec ses copains de l'équipe de France.
Et autre médaille également hier pour les Bleus en argent pour Pauline Ranvier, toujours en fleuret.
C'était le journal d'Adrien Bossard.